I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, mais c'est quand même, l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Pas de coup bas, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. Aujourd'hui, c'était pour cet épisode spécial en public, vous avez décidé, oui, vous, puisqu'on vous a laissé choisir sur internet, que le combat du jour opposerait David Bowie et Freddie Mercury. Un crève-cœur pour beaucoup de monde, hein. Je pense que si on avait fait Patrick Bruel contre Garou, peut-être que ça aurait été moins difficile de choisir, je ne sais pas. David Bowie contre Freddie Mercury, choc de deux stars du rock anglais, devenus des icônes absolues de la culture pop, des centaines de millions d'albums vendus, sans doute autant de spectateurs pour venir les idolâtrer dans les concerts toujours plus fous. Bowie et Mercury, l'incarnation parfaite de l'expression « bigger than life », des personnalités tellement immenses que le monde en aura fait des sortes de demi-dieux qui dépassent très largement le cadre de leur musique. Pour arbitrer le combat, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui aime pile poil autant l'un que l'autre, Max Besnard. Comment ça va ?
Bah, ça va, je t'avoue que je suis un petit peu nerveux parce que mine de rien, c'est un petit peu comme si tu me demandes de choisir entre, je sais pas, mon bras gauche et mon bras droit, tu vois, c'est un peu compliqué. C'est vrai que j'avais pas prévu du tout de faire ça une fois dans ma vie, je suis vraiment hyper fan des deux. Pour situer hein, aussi loin que ma mémoire puisse remonter, mes tout premiers souvenirs musicaux, c'était Let's Dance de David Bowie, c'était I Want to Break Free de Queen, c'était Under Pressure, donc un morceau qui mélange les deux, hein, un duo. Dans un autre genre, tu vois, quand j'avais 20 ans à peu près, moi j'avais du vernis à ongles noir sur la main gauche. Je suis musicien et voilà, Freddie Mercury c'est une idole absolue pour moi. Mais je me faisais coiffer comme David Bowie dans sa période Hours, pour les connaisseurs, peut-être que ça parlera. Donc ouais, j'en étais là, tu vois, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ah bah oui, forcément, je viens d'avoir 40 ans. Donc oui, tout ça pour dire que ça va être compliqué de trancher.
Bah ouais, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On va quand même le faire. On s'est mis d'accord sur 5 critères. Alors, style, chiffres, musique, les talents extra-musicaux et l'impact culturel. Alors, on va commencer par le style.
Ouais, alors juste ces 5 critères, bon, on les a choisis ensemble après concertation. Pourquoi 5 ? Ça me paraissait plus simple d'avoir un chiffre impair. Parce que j'avoue que j'ai pas vraiment compté les points en préparant l'émission. Je ne sais pas vraiment encore qui va gagner. Je vais pas te mentir. Donc ça va être un petit peu la surprise. On verra bien. Pour commencer, moi j'aimerais bien savoir s'il y a des fans de Bowie dans la salle.
Bowie.
Waouh. Oh, Bowie, il y en a. Très bon, Martin. Très bon. Il y a des fans de Martin dans la salle.
Beaucoup moins.
Est-ce qu'il y a des fans de Freddie Mercury? Ok, bon bah voilà, donc Freddie Mercury a gagné, merci, bonsoir. Voilà, donc on va commencer par le style. Pour moi, c'est ce qui est plus logique parce que c'est vrai qu'au-delà de la musique, Bowie et Mercury, ça fait partie des artistes dont l'image est devenue totalement emblématique. Il suffit juste, derrière moi, mais là dans le podcast, vous l'entendez, mais vous ne le voyez pas, c'est le principe des podcasts. Une couronne et une moustache, forcément, ça évoque tout de suite Freddie Mercury. Et puis un éclair tricolore, bleu, noir, rouge, c'est David Bowie. Donc c'est quand même assez puissant d'avoir une symbolique comme ça qui puisse évoquer deux musiciens.
Je reconnais ça immédiatement.
Ah ouais, exactement. D'ailleurs, petite parenthèse hein, au passage, alors, je vais sûrement enfoncer une porte ouverte pour ceux et celles qui connaissent déjà Bowie, mais cet éclair qu'on voit ici, alors c'est l'œuvre d'un maquilleur français qui s'appelle Pierre Laroche et qui... Ouais, on le voit sur la pochette ensuite d'Aladdin Sane. Donc un manager français qui s'est ensuite occupé de Madonna, qui s'est occupé de Jackson, etc. Et c'est donc à lui qu'on doit cet éclair sur le visage de David Bowie, sur la pochette d'Aladdin Sane. Et Aladdin Sane, c'est le personnage après Ziggy Stardust, donc ce n'est pas Ziggy Stardust. Et c'est vrai que très souvent, quand on parle de Bowie, on dit « Ah oui, Bowie, Ziggy, l'éclair », et non, c'est Aladdin Sane, raté. C'était juste la petite parenthèse culturelle un peu relou. Donc, revenons-en plutôt à notre premier sujet. Le style, pour moi, ce qui est vraiment marquant chez les deux, c'est pour ça que c'est compliqué de les départager, c'est qu'ils ont un sens inné de la mise en scène. Je vais commencer par Bowie, parce que Bowie est né quelques mois avant Freddie Mercury, donc on va dire honneur aux anciens. Lui, il a commencé très soft hein, dans les années 60, son premier album, fin des années 60. On sent qu'il cherche un peu. Alors, au début, il est en costard-cravate, c'est très mode, c'est très british, quoi. Et puis, il passe rapidement par plusieurs looks. Alors, ça va être les bouclettes un peu hippie pour Space Oddity. Ensuite, c'est la robe à fleurs pour The Man Who Sold the World. Sur Hunky Dory, l'album suivant, c'est toujours un peu la même ambiance, hein, une pose un peu lascive qui est inspirée d'ailleurs de Marlène Dietrich. Il était venu au photoshooting pour la pochette de cet album avec un bouquin de photos de Marlène Dietrich et il s'est inspiré pour la pose de cet album. D'ailleurs, j'en profite aussi. Alors, nouvelle parenthèse, je vais faire plein de petites parenthèses culturelles relou, je crois. Autre petite parenthèse. Life on Mars est sur cet album Hunky Dory. Life on Mars, c'est un des morceaux les plus connus hein, de David Bowie.
Oui, ouais.
Et contrairement à une croyance populaire, c'est pas un morceau qui a été composé pour la musique de la pub La Poste. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on sent qu'à ses débuts, Bowie est vraiment en pleine quête identitaire. Ses looks sont inspirés un petit peu de ce qui se fait dans la tendance. C'est dans l'air du temps, quoi. C'est les années 70, c'est le Flower Power. Mais cela dit, il y a quelque chose qui est déjà assez sous-jacent dans son premier grand tube Space Oddity. Si on peut en écouter un peu.
Non, mais je connais ça.
Tu connais ? C'est quelle pub ?
C'est pas mal, ouais.
Donc sur Space Oddity, Bowie jette les aventures de Major Tom, c'est un cosmonaute un peu paumé, hein, qui va d'ailleurs mal tourner, il va finir junkie, ça va être très compliqué pour lui. C'est un personnage que Bowie ressort plein de fois dans sa carrière, dans ses chansons, et c'est même le personnage qui ouvre le clip de Black Star en 2015. Black Star étant le premier single du dernier album de Bowie.
Son dernier single qu'il a jamais sorti, non ?
C'est l'avant-dernier, si je ne dis pas de bêtises, où il annonce donc voilà un petit peu à sa façon que il n'est pas un extraterrestre, hein, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser de lui. Bowie n'est pas un extraterrestre, il n'est pas immortel malheureusement, et il fait mourir Major Tom dans ce clip. Alors si je parle de tout ça, tu vois, c'est parce que Major Tom, il préfigure justement toute une famille d'anti-héros qui va en quelque sorte ou plutôt c'est des anti-héros qui vont devenir les marionnettes littéralement de David Bowie. Il va se créer des personnages qui vont le dépasser au fil du temps. On le voit encore avec Aladdin Sane, avec son éclair qui est hyper évocateur. Le plus connu de ces personnages, cela dit, ça reste Ziggy Stardust, hein, qui lui arrive sur Terre en 1972. Ziggy played guitar. C'est bon, il a dit Ziggy, je pense qu'on peut le couper. Donc Ziggy, hein, c'est un extraterrestre androgyne, bisexuel, qui permet à Bowie de se mettre complètement à nu, sans pour autant s'exposer directement. Donc on va entrer dans une phase chez lui avec plein d'alter-ego. Ça va durer quasiment 10 ans, donc Aladdin Sane, dont on a déjà parlé. Il y a Halloween Jack aussi, c'est un personnage qui ressemble lui aussi un petit peu à Ziggy Stardust, mais avec un patch sur l'œil de pirate. Il y a le Thin White Duke, qui est le cocaïnomane parfait des années 80, plutôt fin 70. Il y a un Pierrot aussi, qui apparaît sur la vidéo de Ashes to Ashes. Voilà, plein de personnages qui vont porter sa musique, derrière lesquels il peut se cacher plus ou moins discrètement pour s'exprimer de façon parfois limite. Mais ça lui sert vraiment de support créatif. Et puis, à partir des années 80, c'est au début de la période Let's Dance. Un de ses plus grands tubes. Il a dit Let's Dance, on peut arrêter.
On peut arrêter. On va faire ça comme vous voulez, mais c'est vrai que quand on lance du Bowie, on a envie de continuer à écouter, quoi.
C'est vrai que c'est tentant. Donc là, voilà, années 80, Bowie va complètement abandonner ses délires d'alter ego, même s'il va continuer à travailler son look. Et c'est ça qui est important. C'est peut-être un petit peu moins schizophrène dans la démarche, mais à chaque nouvel album, il a un nouveau style, une nouvelle coupe de cheveux, des nouvelles fringues, etc. Et cela dit, tous ces looks, ils sont hyper travaillés, mais ce n'est pas lui qui les gère directement. Disons qu'il donne des directions, mais il va se faire aider par des stars de la haute couture, notamment. Alors, je peux citer Alexander McQueen, qui avait fait la redingote avec l'Union Jack, donc le drapeau anglais dans le dos, qui est sur la pochette de l'album Earthling, qui est sorti en 97, si ma mémoire est bonne. Kansai Yamamoto aussi, qui va travailler avec lui dans les années 70, etc. C'est difficile de tout résumer, tu vois, on va pas faire le podcast uniquement sur les couturiers, les couturières. Il y a eu Agnès B aussi, je crois, qui a collaboré avec lui. On va pas faire le podcast que là-dessus, mais voilà, pour moi, ce qui est important, ce qu'il faut garder en tête, c'est tous ces changements de ton, cette volonté constante que Bowie a eu de marquer les esprits à la fois avec sa musique et son look. Et tout ça, c'est pas anodin, en fait. C'est juste que Bowie, il a une formation musicale, mais il a aussi une formation artistique qui vient du monde du théâtre. Et il a notamment fréquenté le mime Marceau. Et il a vraiment une vision globale du spectacle. Ça te fait rire.
C'est le mot mime, mais je suis désolé, mais mime Marceau, ça te fait rire à chaque fois.
Tu penses à Gad Elmaleh, en fait, c'est ça.
Ouais. Je pense à Barrez-vous, compte de mime.
Et bon, c'est une très bonne référence aussi. Ça donc voilà, Bowie a une vision vraiment global du spectacle, ouais. et de l'image qu'il a envie de renvoyer. Vraiment, tout est calculé chez lui, même s'il délègue quand même certaines choses.
Bon, je pense qu'on a fait le tour de David Bowie.
Largement.
Parle-nous du moustachu.
Alors, Mercury dans tout ça. Mercury, c'est assez différent parce que lui, il a une formation universitaire artistique qui est plutôt portée sur les arts graphiques. Et il a aussi bossé dans les fringues. À la fin des années 60, il tient un stand avec Roger Taylor, le batteur de Queen. Ils tiennent un stand au Kensington Market à Londres. Ils vendent des fringues, c'est de la fripe, c'est des choses qu'ils ont retouchées, qu'ils ont customisées. Donc il a des looks qui sont peut-être toujours travaillés, mais qui ne sont pas aussi expressifs et extravagants, je veux dire, que David Bowie. Voilà. Mercury est hyper inspiré d'Hendrix, d'où les boas en fourrure au tout début de sa carrière avec Queen. Il est inspiré d'Elvis, il s'inspire des divas de Broadway, il est hyper fan de comédie musicale. Ça a parlé à certains et certaines ici,
bien sûr,
et
tu dis Broadway. Tu
comédie sais. Musicale, tout de suite, les yeux qui s'ouvrent.
Ah non, moi tu me dis Broadway, c'est Java, mais...
Ah, t'es irrécupérable, désolé. T'es irrécupérable. et tout ça, ça se traduit par des looks assez cool, assez rigolo, assez étonnant, avec toujours beaucoup de pilosité apparente chez Freddie Mercury. Il a presque pas besoin de porter un haut parce qu'il a. Bon, bref.
Il a naturellement.
Il était comme il était. Cela dit, ça n'avait pas d'incidence directe sur sa musique. Tu vois, c'est des looks très glam rock, très glitter, mais voilà, il n'y a pas de rapport entre son apparence et sa musique. Pas direct, en tout cas pas comme chez Bowie où il y a carrément des personas. On pourrait presque considérer, j'aime bien les délires aussi autour de Superman qu'il a eu, enfin bref, on pourrait presque considérer que Mercury, c'est un peu l'alter ego de Farouk Boulsara. Donc Farouk Boulsara, c'est le nom de Freddie Mercury dans la vraie vie. C'était un petit peu ça pour moi. Freddie Mercury, c'est le personnage créé par Farouk Boulsara, et c'est un personnage qui a vieilli, qui a évolué, qui a changé de look, qui reflétait plus ou moins la pensée et la personnalité de Freddie Mercury. Mais je pense que c'était surtout pour lui une façon de masquer. Il était légendairement timide, paraît-il, Freddie Mercury, dans le privé. C'est peut-être une façon aussi un petit peu de vampiriser cette timidité une fois qu'il était sur scène. Il y a un côté... c'est pas schizophrène comme chez Bowie, mais c'est quelque chose, c'est une façade, quoi. C'est une petite façade qui s'est créée. Donc finalement, chez lui, les looks, c'était pas le centre de tout.
Alors, un seul personnage côté Mercury contre plein de personnages côté Bowie, c'est ça qu'il faut dire ?
C'est presque ça la conclusion. Ouais, évidemment. Alors, quel personnage, quand même, pour Freddie Mercury ?
Ouais.
Effectivement, tu as raison. Hein. Je porte un amour infini à Freddie Mercury.
On sent qu'il a déjà du mal. Déjà, il faut choisir un peu.
C'est sûr. J'ai presque envie de poser le micro et de partir en courant. J'aurais évidemment tendance à donner, sur la question du style, l'avantage à David Bowie. qui donc, encore une fois, a poussé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin ce délire d'alter ego et qui vraiment était très, très partagé. Moi, j'aime bien cette idée de... il se crée des nouvelles façades et des nouveaux personnages et des nouveaux univers à chaque album pour accompagner sa musique. Là où Mercury, bah, il cherchait peut-être plus à mettre juste un filtre sur sa réalité et c'était une façade pour la scène et point barre, quoi. Alors... évidemment, hein, je te dis ça. Bon, bah oui, il a quand même popularisé le mulet orange fluo.
Est-ce qu'on peut le pardonner ?
Je sais pas, j'ai rien contre le mulet, mais c'est vrai que ça m'embête un peu de lui donner un poids parce que, regarde, je veux dire, Freddie Mercury, il avait un joli carré. C'est, les mecs avec des carrés, c'est quand même cool, quoi. Donc, mais bon, pour conclure là-dessus, Mercury, la seconde moitié de sa carrière, surtout, carrière qui n'a malheureusement pas été très très longue, mais la seconde moitié de sa carrière, c'était surtout jean basket, le torse à l'air, les poils en avant, et puis voilà, il se contentait de ça. C'était pas, c'était stylé, hein, c'était rock'n'roll, mais c'est vrai que c'était pas hyper original. Donc, je pense que là, on peut gravement, complètement donner l'avantage à Bowie.
Bon, David Bowie verse le premier sang.
J'ai pas envie de compter les points, mais
je vais les compter. On va tous les compter. On va tous t'aider. On va tous t'aider. Bon, 1-0 pour David Bowie. Alors maintenant, on va passer à la bataille des chiffres.
Oh là là.
Du concret, du dur, du,
du des millions, du pragmatique. Alors, on va commencer par les ventes, mais d'abord une précision. C'est des estimations, d'accord. C'est des chiffres littéralement stratosphériques que je vais vous sortir, mais cela dit, on n'est pas à 1 million ou à 10 millions près, vous allez voir, dans ces hauteurs. Donc, je vais commencer par Queen, qui officiellement a dépassé les 350 millions d'albums vendus dans le monde, ce qui est un chiffre assez faramineux, surtout quand on compare à Bowie, qui est à 150 millions, d'accord. Alors, bien sûr, ça c'était à l'époque où les gens allaient encore dans des magasins pour acheter de la musique. Ça fait un peu vieux gars, mais tu me diras, j'ai précisé que j'avais 40 balais. Ça fait un peu vieux gars de le dire, mais c'est vrai que ça remonte. Et aujourd'hui, à l'époque où le streaming domine largement le marché, évidemment, ça devient de plus en plus compliqué à vérifier, dans la mesure aussi où chaque plateforme a sa propre façon de compter les vues, les écoutes, etc. Alors, je vais en prendre une qui est la plus populaire. On va prendre Spotify. Queen, c'est 36 millions d'abonnés sur Spotify. Bohemian Rhapsody, retenez bien ce chiffre, 36 millions d'abonnés chaque mois pour Queen. Bohemian Rhapsody, 1,1 milliard d'écoutes. C'est la chanson du 20e siècle la plus streamée actuellement. Mercury, sous son seul nom maintenant, c'est 1,9 million d'abonnés, avec une chanson qui s'appelle Living on My Own, qui elle culmine à 18 millions. D'accord ? Donc je répète, Queen 36 millions, 1 milliard d'écoutes pour Bohemian Rhapsody, 1,9 million d'abonnés pour Freddie Mercury, 18 millions d'écoutes. Bowie, on est à 14 millions d'abonnés. Donc on est quand même loin derrière.
Ouais.
C'est qui le plus fort, hein, tu vois, moi je prends des trucs bêtes et méchants, juste là, des chiffres pour en faire parler. Ah bah. 14 millions d'abonnés et Heroes, qui est son morceau numéro 1 sur Spotify, il est à 181 millions d'écoutes. 181 millions face à Bohemian Rhapsody, 1,1 milliard d'écoutes. Ouais, je vois que tu...
bah oui, non, mais oui, ah, oui.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, pour le coup. Hein.
Ouais.
Si je prends les abonnés YouTube, Queen 11 millions, Mercury 617 000 seulement, et Bowie 850 000, même pas, je crois que c'était 847 au dernier décompte.
Alors,
donc,
c'est... Bon, est-ce qu'on va dire que c'est Bowie contre Queen ou Bowie contre Mercury ?
Alors, c'est justement pour ça que je voulais pas du tout faire cette émission.
Trop tard.
C'est que c'est évidemment hyper compliqué de parler de Mercury sans parler de Queen. Et d'un autre côté, Mercury, il a un rôle, c'est le leader et c'est lui qui a composé le plus de morceaux au sein de Queen. Regarde, si on détaille un peu les albums studio, alors les albums studio officiels, on en a 15 pour Queen, 27 pour Bowie. Donc Bowie, il a largement gagné sur ce terrain-là. Sachant que Mercury a composé à peu près la moitié des chansons sur ses 15 albums, à la louche, hein. Donc ça fait à peu près 80 chansons. Du côté de Bowie, c'est plus compliqué parce que généralement, il se fait aider de musiciens. Il a des producteurs, il a des musiciens, il change aussi. Alors, il y a les personnages qui changent à chaque album, mais il y a aussi les musiciens, les producteurs, les ingénieurs du son, etc. etc. Il prend des nouvelles équipes quasiment à chaque fois, ou en tout cas par période. Ce qui fait qu'il n'a jamais vraiment été tout seul, à part peut-être sur son premier album. Si je prends par exemple le cas de Heroes, j'en reviens encore à Heroes, qui est donc la chanson de Bowie la plus streamée sur Spotify. Heroes, c'est une co-composition de Bowie avec Brian Eno et Robert Fripp.
Robert Fripp, c'est celui qui vend des vêtements.
C'est celui qui vendait des vêtements avec Freddie Mercury à Kensington.
Okay. Okay. À la fin des années 60. Ouais, je vois bien qui c'est. Ouais.
Très bon, j'aurais dû la noter, elle est bien celle-là. Non, l'idée, c'est que Bowie, son grand talent, c'est d'avoir toujours su s'entourer des bonnes personnes au bon moment, alors que les mecs de Queen, ils étaient quatre, ils comptaient que sur eux-mêmes. Et on va dire, la plupart des morceaux de Queen, c'était l'un des quatre musiciens de Queen qui l'amenait aux autres, et les autres mettaient une petite touche dessus et point barre. Donc c'est vraiment des compositions très personnelles pour chacun. Ouais. À mon avis, c'est ça la grande différence entre les deux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Bowie s'est autorisé plein de duos avec plein d'artistes tout au long de sa carrière. Là où finalement, Freddie Mercury, il a fait deux vrais duos dans sa carrière. Il a fait un album qu'il a composé pour une cantatrice qui s'appelait Montserrat Caballé, et il a fait un duo avec
David Bowie.
Il n'y a pas, ça suit pas.
Et Giorgio Moroder.
Et Michel, non, pas Michel Sardou. Et donc, comme je disais, au sein de Queen, chacun amenait ses morceaux. Mercury a signé, c'est pas la plupart, mais il a signé une grande partie des hits de Queen. Pour donner un petit ordre d'idée, un We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, Don't Stop Me Now, Killer Queen, tout ça, c'est lui. Il y a aussi une petite chansonnette qui s'appelle Bohemian Rhapsody, je crois. Je
connais pas.
Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était sa vie, son œuvre. En clair, chaque être humain qui a foulé la Terre depuis 1971 à peu près, a entendu au moins une fois dans sa vie un morceau de Freddie Mercury. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en dire autant pour David Bowie.
Je ne sais pas, demandons au public, est-ce que vous validez cette assertion ?
Non, je vois des têtes, tu vois, qui font « Ouais, je sais pas
!» Bon,
bref.
Moi, je pense que c'est vrai.
Tu penses que c'est vrai ? C'est gentil de me soutenir. On va prendre l'exemple de Under Pressure, justement. Under Pressure, c'est un morceau donc, qui est le seul duo officiel qui a été entendu entre Bowie et Queen, et donc entre Bowie et Freddie Mercury, qui s'échangent le micro sur le titre. Ça vient d'une idée initiale de Mercury, c'est un morceau qui s'appelle Feel Like. C'est un morceau qui s'appelle Feel Like. Ça vous évoque quelque chose ?
Ça me dit vaguement quelque chose, ouais.
Ok. On enchaîne sur Under Pressure. Voilà. Donc, c'est une compo de Freddie Mercury sur laquelle John Deacon, le bassiste de Queen, a apporté cette fameuse ligne de basse que tout le monde connaît. Et puis après, Bowie est venu se greffer dessus avec ses propres idées.
Mais à quel moment est arrivé Vanilla Ice ?
Vanilla Ice, c'est bien, bien plus tard. C'est vrai que c'était super aussi. Tu veux qu'on fasse un C'est qui le plus fort avec Vanilla Ice contre le, je sais pas, Cream, comme ça, ça ferait Vanilla Ice, Cream. Un truc
très bien, ça me va.
Pour conclure encore une fois sur Spotify, comme référence, hein, 624 millions d'écoutes pour Under Pressure. Autrement dit, c'est le morceau de Bowie le plus populaire.
Ah merde, quelle humiliation.
Ah.
On est au bord de la chute. Merci.
Martin a failli tomber de son canapé.
J'ai failli faire tomber le canapé même.
Donc voilà, le morceau de Bowie le plus populaire, c'est un morceau de Queen.
Ok, putain.
Composé par Freddie Mercury.
Quelle humiliation. Donc ouais, bon, Mercury gagne quoi.
Alors Mercury gagne, ça c'est sans conteste. Évidemment, si on reprend encore une fois Mercury en solo. Donc c'est une dizaine de millions d'albums vendus. Évidemment là c'est Bowie qui gagne, mais on va
je
être.
Je pense que ça aurait été injuste.
Ça aurait été injuste, ne serait-ce que pour Bohemian Rhapsody.
Éventuellement t'aurais pu faire un prorata, tu vois, genre.
Je suis pas assez bon en maths pour
des
ça.
Des chiffres de Queen, faire un ratio.
On aurait dû faire un fichier Excel avec un PowerPoint.
Un fichier Excel, ouais. La vie est beaucoup plus belle quand on la casse dans des cases de fichiers Excel. écoute, est-ce qu'on va pouvoir enchaîner sur le point suivant ?
Carrément.
On va pouvoir. Bon, le point suivant, il est assez évident, la musique. On va quand même commencer à se poser des vraies questions du genre qui a fait les meilleures chansons.
C'est vrai qu'ils ont fait de la musique tous les deux, j'avais oublié.
Ils n'ont pas fait que des saps et de la vente.
Spoiler, non. Je dis rien. Bon, on garde en tête l'idée de vente.
Alors, on va tenter de répondre à qui a fait les meilleures chansons, tout simplement. Qui a fait la meilleure musique ? Enfin, tu vas tenter, et nous, on va dire si on est d'accord ou pas.
Je vais essayer. Moi, j'aurais bien voulu que ce programme s'appelle « C'est qui les deux plus forts ?» Ça m'aurait arrangé, je t'avoue. Donc Bowie ou Mercury, le plus fort, question musique. Il va de soi que je ne peux pas aborder cette question sous le prisme de qui fait les meilleures chansons, parce que c'est vraiment une question de goût et c'est même pas une question de je vais mouiller ou pas. Ça n'a aucun sens de dire Mercury fait de la meilleure musique que Bowie ou l'inverse.
Si.
j'aimerais bien avoir le fond de ta pensée. C'est vrai que je ne t'ai pas posé la question de savoir lequel des deux tu préférais. Non, on va parler de technique musicale. Alors, je vais essayer de vulgariser au maximum. Donc, les deux avaient des styles hyper identifiables, hyper affirmés, ça c'est incontestable, avec généralement un goût assez prononcé pour les choses compliquées qui partaient un petit peu dans tous les sens, harmoniquement ou mélodiquement. Mais il faut être honnête, Mercury, il avait un bagage musical un peu plus développé que Bowie, on va dire. Quoi.
Tu prends des risques, là. Tu prends des risques.
Je prends des risques.
Tu marches sur des œufs, je dirais.
Je marche sur des œufs. C'est pas très vegan de marcher sur des œufs. Mais je prends des risques, effectivement. Une éducation musicale pour Mercury, donc, qui est héritée de la musique classique, au sens classique du terme, et puis du rock, évidemment. Là où Bowie, lui, c'est plus un musicien de folk qui est hyper fan de Bob Dylan, qui, voilà, tu vois, on en revient toujours à ces mêmes délires au début, c'est un hippie qui joue de la guitare 12 cordes acoustique. Et voilà, il est tombé après dans des phases d'expérimentation, mais sauf que pour ça, il s'est fait aider, il l'a jamais vraiment fait tout seul, on en revient encore au même. Donc si on prend la facette des instruments de musique uniquement, Mercury, c'était un incroyable pianiste avec un tempo absolument parfait. J'en profite d'ailleurs pour recommander une vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Queen, dans laquelle Brian May présente Bohemian Rhapsody piste par piste, avec notamment la piste de piano qui a servi littéralement de métronome au morceau. Mercury n'enregistrait pas avec un métronome dans le casque. Il se mettait tout seul derrière son piano et il traçait, et il avait un sens du rythme parfait qui lui permettait de faire ça. Et sur cette fameuse vidéo, tu entends Mercury en train de chantonner l'air de Bohemian Rhapsody tout au long du morceau. C'est assez incroyable si tu kiffes et que t'es fan. Donc la facette des instruments de musique, bah, Mercury, excellent pianiste. On peut écouter par exemple un extrait d'un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle My Melancholy Blues pour se rendre compte. Alors, c'est pas flagrant pour les gens qui écoutent le podcast, mais là, on a sorti des verres de whisky, on est en train de fumer des cigares et tout. Prohibition, c'est génial l'ambiance. Mercury joue aussi de la guitare, les guitares acoustiques de Crazy Little Thing Called Love, c'est lui. Alors, c'est pas un immense guitariste, hein, évidemment, mais comme Bowie, tu vois, il savait faire le boulot, il faisait le minimum et ça fonctionnait, quoi. Et donc Bowie, justement, de son côté, lui, c'est quelques accords de guitare, comme je disais, façon Bob Dylan. Il jouait plutôt très bien du saxophone. Il jouait un peu de piano aussi. D'ailleurs, il a accompagné Iggy Pop sur une tournée, la tournée de l'album Lust for Life. Il accompagnait Iggy Pop au chœur et au clavier. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas son fort. Et encore une fois, il a beaucoup délégué pour mettre ses idées en forme.
Donc, plutôt avantage Mercury, non ? Mais bon, on n'a pas encore parlé de voix.
On n'a pas parlé de voix, effectivement. Et une fois de plus, je ne vais pas me mouiller. Désolé.
On va le faire.
On ne va pas les départager sur le timbre. Toujours, j'en reviens à ça, c'est une question de goût, même si on sait tous que Mercury a la plus belle voix de l'histoire de l'humanité. En revanche, sur ce qui est de la tessiture, c'est-à-dire l'étendue de la voix, du grave à l'aigu, même si Bowie descend un peu plus bas que Mercury, et pour la petite anecdote, c'est un point culturel. Pour la petite anecdote, quand Queen a dû jouer Under Pressure sur scène, donc leur duo avec Bowie, ils ont descendu un petit peu la tonalité du morceau pour que Mercury puisse assumer aussi les parties de voix de Bowie qui étaient plus basses que son registre. Donc, non, ils ont monté, pardon, la tonalité. Donc, la tessiture, Bowie descend plus bas, Mercury va plus haut. Cela dit, alors, on peut s'écouter un extrait de Life on Mars de Bowie. Take a look at the old man, meaning of the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Attention, c'est là. Is there life on Mars? voilà, c'est quand même hyper admirable. C'était au début de sa carrière, hein, je reviens à Hunky Dory. Mais on est quand même très très loin. Non, c'est toujours pas la pub La Poste. On est encore très très loin des performances complètement folles de Mercury, genre ça. On fait moins les malins là.
T'es en train de dire qu'avec cette performance, Mercury prend l'avantage?
Alors vocalement, oui, hein, je crois pas qu'il puisse y avoir vraiment de débat à ce sujet. Pour continuer sur la thématique purement musicale, hein, sur les genres de musique abordés, bah, les deux, ils ont touché à peu près à tout, même si Bowie, on va dire qu'il travaillait sur la texture et l'ambiance, contrairement à Mercury qui transmettait tu vois, toute sa folie absolue sur une base de rock. En gros, c'est un peu le match entre la pop et le rock, je pense. D'ailleurs, c'est ce qui fait que Bowie a souvent précédé les tendances en s'alliant à des pointures de l'underground. Alors, il y a eu Brian Eno, il y a eu Beck, il y a eu Trent Reznor, il y a eu plein de musiciens comme ça. Et puis, bah, voilà, quand il a voulu faire du mainstream, il s'est associé à Nile Rodgers.
Le mec de Daft Punk.
Le mec, si tu veux, Martin. À l'inverse, bah Mercury, lui, il écoutait à peu près que lui. C'était un mec qui faisait jamais de compromis. Le résultat, bah, c'est pour Bowie des albums souvent hyper avant-gardistes, alors que Queen, c'est plus des folies complètement inclassables, un peu hors du temps, avec des voix empilées, des passages complètement épiques, des orchestrations qu'on n'avait jamais entendues avant. Mais c'est pas forcément ce qui a le plus influencé les tendances musicales de ces époques-là. Voilà, la folie pour moi de Mercury, c'est par exemple ça, Brighton Rock. Il y a aussi voilà, un autre exemple, Somebody to Love. Là, c'est en blanc, ambiance gospel. Attention, c'est là. Je la chante tous les samedis soirs au le New York, New York, le karaoké de la rue Mouffetard. Donc là, j'ai plutôt envie de donner le point à Mercury, mais c'est pas forcément fini parce que le souci dans ce comparatif, hein, c'est que Mercury, bah, il a pas eu la chance de vivre aussi longtemps que David Bowie. Ils sont nés littéralement à quelques mois d'écart, sauf que bah, Bowie, il a vécu presque 24 ans de plus. Que Mercury, donc c'est difficile de savoir si en réalité Mercury se serait adapté à son époque. C'est difficile de savoir s'il aurait suivi toutes ces nouvelles tendances. Est-ce qu'il aurait fait comme Bowie l'a fait en se renouvelant dans la troisième, j'allais dire, partie de sa carrière. Donc c'est toujours un petit peu biaisé tout ça. On peut dire que globalement Mercury collait de plus en plus au fil du temps à un format rock très classique du rock de stade, quoi. Mais ça serait quand même faire abstraction notamment de son album Barcelona, qui est l'un de ses derniers travaux, son dernier en tout cas en solo, et l'un de ses derniers travaux tout court, un album qu'il avait composé entièrement seul pour la cantatrice Montserrat Caballé. Donc voilà, un album qu'il a composé, c'est un délire complet cet album, une sorte de mélange de vrai opéra avec du rock-pop. C'est vraiment l'idée du fameux pont de Bohemian Rhapsody, le pont opéra, mais qui est poussé littéralement sur un album complet. Tout ça pour dire, à mon avis, il était là à se dire, moi je chante avec la plus grande cantatrice du monde, vous allez faire quoi?
Non, je suis Bono et je chante avec Pavarotti.
Et ouais. Alors Bono. Non, je ne connais pas.
Et donc on fait quoi alors?
On va arrêter de se mentir. Il n'y a pas une seule session de karaoké dans l'histoire de l'humanité qui ne soit pas finie sur ça. Galileo.
Alors, tu sais très bien que c'est faux. Tu sais quelle est la dernière chanson des sessions de karaoké?
Les lacs du Connemara. Quelle
toi-même,
honte,
tu sais.
Mais quelle indignité, Martin, quelle indignité. Non, pas du tout, là, franchement. Musicalement, moi, j'ai envie de dire que c'est Mercury qui gagne.
Ok. C'est toi qui décides, c'est toi qui en assumes les conséquences.
Mais attends, c'est pas fini.
Je sais. Alors on va parler de en dehors de la musique du coup.
En dehors de la musique. Bah là c'est pas compliqué, ça va aller très très vite. Mm-hmm. Bowie, il a une carrière au cinéma qui parle d'elle-même. Furio, The Man Who Fell to Earth, Le Prestige, Dark Crystal, Zoolander aussi, sa meilleure apparition au cinéma. Donc il y a des gens qui rient parce que c'est des connaisseurs. Il a fait aussi des pièces de théâtre, il a fait plein de bandes originales pour des films, il a fait un jeu vidéo, il avait notamment fait sa propre version de Pierre et le Loup. Enfin, il a fait des choses assez folles en dehors de sa carrière musicale solo classique. C'est aussi le premier artiste, et c'est là où je vous ai tout à l'heure de garder en mémoire l'histoire des ventes, c'est le premier artiste à avoir été coté en bourse. C'est le premier artiste à avoir lancé une banque en ligne. C'est le premier artiste à avoir sorti un single et ensuite un album entier sur Internet. C'est le moment où tu es censé dire Internet.
Non, j'allais dire Michel Polnareff, mais...
Ok. Notre
pionnier
à nous.
C'était
pas Minitel, lui, plus ?
Ah, Minitel, ouais, mais bon, c'est un pionnier d'Internet aussi. Ouais.
Donc voilà, Bowie, lui, il était vraiment partout avant tout le monde. Encore une fois, Mercury, lui, il n'a pas eu sa diversité, mais de toute façon, j'imagine que ses problèmes de santé ont fait que, dans la seconde partie de sa carrière, il s'est concentré quand même sur l'essentiel qui était pour lui la musique. Et puis, de toute façon, comme il a malheureusement disparu avant la démocratisation d'Internet, c'est impossible de savoir s'il aurait profité de tous ces nouveaux formats ou pas. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que c'est pas du tout flagrant quand on voit comment il se comportait sur scène, mais c'est quelqu'un qui détestait son image, qui était excessivement réservé et secret, et je suis pas certain que le cinéma, c'était son délire. Un petit détail, tout de même, hein, pour conclure sur ce truc-là, je vois que tu souris, parce que tu sais de quoi je vais parler, mais le film Bohemian Rhapsody, là, c'est partagé entre le rire gêné et le silence encore plus gênant. C'est le biopic le plus populaire de l'histoire des biopics pour l'instant, en tout cas les biopics
de
musicaux.
De tous les biopics ou biopics musicaux ?
Alors, c'est des biopics musicaux, mais je me demande si c'est pas les biopics tout court. Faudrait vérifier. D'accord. Faudrait demander à un vrai fan de cinéma, je sais pas, genre quelqu'un comme
Hugo Alexandre.
Ouais. Pas d'avis. voilà, bon, c'était juste histoire de dire que même au-delà de tout ça, Mercury était quand même un petit peu présent sur les écrans, mais malheureusement c'était pas lui.
Donc Bowie gagne le point.
Bowie gagne très largement le point. Il nous reste encore un point.
On est à quoi, à deux partout là? C'est ça.
Ouais, je crois. Hein.
Bon, le dernier point va tout trancher.
Alors,
le point de l'influence.
Le point de l'influence, peut-être le point le plus compliqué à trancher de tous. J'ai l'impression que je me répète et que je dis ça à chaque début de section, chaque segment. Bowie a inspiré les plus grands couturiers, les plus grands musiciens, les plus grands danseurs, les plus grands réalisateurs. Son influence, ça va bien au-delà de la sphère musicale. Paradoxalement, sa musique est moins connue que celle de Mercury. Qui s'est contenté quand même de faire parler son talent de composition et d'interprétation. Je pense que il n'y a pas vraiment de débat sur ce point, c'est-à-dire que tu mets un We Are The Champions, tu mets Bohemian Rhapsody, tu mets, je ne sais pas moi, Killer Queen ou peu importe, tout le monde connaît ces morceaux. Heroes, peut-être que ça parle parce que c'était dans une publicité, mais je ne suis pas sûr que... Non, mais de toute façon, encore une fois, les chiffres de stream, les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes. La musique de Freddie Mercury est beaucoup plus populaire au sens vraiment premier du terme. Et de toute façon, lui, voilà, tout ce qui se passait autour, ça ne l'intéressait pas. Je pense que s'il a eu une influence, cela dit, c'est avant tout sur des musiciens ou éventuellement des stars du karaoké dont je fais partie de façon un peu amateur, mais voilà. Tandis que Bowie, lui, il a inspiré tout le monde, hein, le monde de l'art, de la culture en général, de la pop culture. Je dirais, pour parler pragmatiquement, sans Bowie, on n'aurait pas eu The Cure, on n'aurait pas eu Placebo, on n'aurait pas eu les Smashing Pumpkins. Sans Mercury, on n'aurait pas eu Muse, on n'aurait pas eu Lady Gaga, on n'aurait pas eu Metallica. Donc ça dépend vraiment de ton délire. Deux salles, deux ambiances, je sais. Moi, j'aime tous les artistes que je viens de citer. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est une volonté commune de marquer les esprits. Et puis c'est vrai que Bowie a eu droit à un emoji avec l'éclair d'Aladdin Sane.
Ah. Le point emoji.
C'est peut-être ça, finalement, l'argument ultime pour les départager. Mais je rappelle que c'est l'œuvre d'un maquilleur français.
D'accord. Ouais. En même temps, le caca aussi a un emoji.
Oh là là, j'aurais dû le noter aussi bien celui-là. Mais il n'y a pas d'emoji moustache, tu vois. Il y a, la couronne, mais il n'y a pas la moustache.
Voilà, il va falloir départager.
Ouais, alors écoute, moi je t'avoue que je ne suis pas venu ici pour souffrir, donc il n'est pas question que je tranche en fait.
Et tu sais que tu dois trancher. Ça, tu le sais.
Ok, alors je vais dire. La raison pour Bowie, le cœur pour Mercury.
C'est des arguments.
Ou alors je vais dire que Bowie c'est le meilleur artiste solo de tous les temps et Mercury c'est le meilleur groupe. Queen c'est le meilleur groupe et comme il y a Mercury. Je sais pas, je sais pas quoi faire en fait.
Bon.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, on va demander au public.
Applaudimètre ?
Applaudimètre.
À l'ancienne ?
À l'ancienne.
La télé des années 80. Ouais. Allez, c'est parti.
Bon, ben, on a besoin de vous pour trancher.
Alors, on fait pour Bowie en premier, ok ?
Ok, alors applaudimètre pour Bowie en premier.
C'est parti.
Bon. Et maintenant, Freddie Mercury.
Ah, vous me rendez tellement heureux.
Et ben voilà, il fallait être un vainqueur, c'est Freddie Mercury.
C'est Freddie Mercury, magnifique.
Bravo, bravo Max. Et...
Vas-y. Avant de conclure, un petit mot quand même, j'aimerais savoir pour qui tu aurais voté.
Ben, j'aurais voté Bowie, évidemment.
C'est vrai ?
Ben, Bowie.
Espèce de traître.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, Max ?
Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ? Bah, pour être très original dans un podcast, j'en ai lancé un nouveau le 2 janvier, ça s'appelle Rocktogone, donc c'est l'octogone du rock, c'est de la bagarre.
C'est un peu comme ici.
C'est un petit peu comme ici, ouais,
c'est un peu comme ici. Plus fort.
Tu veux nous mettre un procès, c'est ça ? Non, l'idée de Rocktogone, donc je tiens ça avec Stéphane Boulet, qui est un pote qui, lui, est dans Super Ciné Battle. Très très bon podcast sur le ciné. Donc pour nous écouter, c'est sur octogone.fr. Le concept est très simple. Chaque jeudi, pendant un an, on s'affronte avec chacun notre album préféré d'une année qu'on a choisi aléatoirement. Et c'est une année qu'on a choisi entre 1970 et 2020. Donc c'est un format court qui fait 20 minutes. C'est hebdomadaire. Et on va donc le faire sur toutes les semaines de l'année 2020. Et c'est un podcast éphémère puisqu'il ne durera qu'une année.
Super. Et puis pour celles et ceux qui n'étaient pas là et qui nous écoutent en replay, dites-nous sur les réseaux sociaux si vous êtes content de ce résultat ou pas. On sera content d'en reparler avec vous.
Vous êtes content.
Merci public. Bon, bah, on va enchaîner avec un autre grand artiste. On vous laisse 3 minutes pour discuter un peu. Et dans 3 minutes, on enchaîne avec un autre grand nom de la musique. Vous l'attendez tous. Il s'appelle Michel, il s'appelle Sardou, il s'appelle... Est-ce qu'on peut...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.